I. Le melodrome nu a mantra si souvent les brigands italia du 16e siècle, et tant de gens en ont parle sans les connaître, que nous en avons maintenant les idées les plus fausses. On peut dire en général que ces brigands furent la position contre les gouvernements atroces qui, en Italie, succèderont aux républiques du Moyen Âge. Le nouveau tyran fut ordinaire le citoyen le plus riche de la défunte république, et, pour séduire le bas peuple, il ornait la ville d'église magnifique et de beaux tableaux. Tels furent les Polentini de Riven, les Manfredi de Faenza, les Riaria di Mola, les Cain de Veron, les Bentivoglio de Bullen, les Visconti de Milan, et enfin, les Moabiliqui et les plus hypocrites de tous, les Medici de Florence. Parmi les historiens de ces petits états, aucun n'a osé raconter les empoisonnements et assassinats sans nombre ordens par la perquisition de ces petits tyrans, ces graves historiens étaient à leur solde. Considers que chacun de ces tyrans connaissait personnellement chacun des républicains dont il savait être exécré, le grand duc de Toscancombe, par exemple, connaissait Strozzi, que plusieurs de ces tyrans prirent par l'assassinat, et vous comprendrez les haines profondes. Les méfiances éternelles qui donnerent tant d'esprit et de courage aux Italiens du 16e siècle, et tant de génie à leurs artistes. Vous verrez ces passions profondes empêcher la naissance de ces préjugés et ridicules qu'on appelait l'honneur, du temps de Madame de Sévigné, et qui consistait surtout à sacrifier sa vie pour servir le maître dont on est né le sujet et pour plaire aux dames. Au 16e siècle, l'activité d'un homme et son mérite réel n'y pouvait se montrer en France et conquérir l'admiration que par la bravoure sur le champ de bataille ou dans les duels, et, comme les femmes aiment la bravoure et surtout l'audace, elles deviendront les juges suprêmes du mérite d'un homme. Alors n'a que l'esprit de galanterie, qui prépare l'anéantissement successif de toutes les passions et même de l'amour, au profit de ces tyrans cruels auxquels nous obéissons tous, la vanité. Les rois protégeront la vanité et avec grande raison, de la l'Empire des Rubens. En Italie, un homme s'est distingué par tous les genres de mérite, par les grands coups d'épée comme par les découvertes dans les anciens manuscrits, voyez Petrarch, l'idole de son temps, et une femme du 16e siècle aimait un homme savant en grec autant et plus qu'elle n'eût aimé un homme célèbre par la bravoure militaire. Alors on vit des passions, et non pas l'habitude de la galanterie. Voilà la grande différence entre l'Italie et la France, voilà pourquoi l'Italie a voulu être les Raphaël, les Georgian, les Titian, les Courage, tandis que la France produisait tous ses braves capitaines du 16e siècle, si on connu aujourd'hui et donc chacun avait tué un si grand nombre d'ennemis. J'ai demandé pardon pour ces rudes vérités. Quoi qu'il en soit, les vengeances atroces et nécessaires des petits tyrans italiens du Moyen en a concilié et aux brigands le cœur des peuples. On husait les brigands con ils volaient des chevaux, du blé, de l'argent, en un mot, tout ce qui leur était nécessaire pour vivre, mais au fond le cœur des peuples était pour eux, et les filles du village préféraient à tous les autres les jeunes garçons qui, une fois dans la vie, avaient été forcés d'andar à la maquia. C'est à dire de fuir dans les bois et de prendre refuge auprès des brigands à la suite de quelque action trop imprudente. De nos jours encore tout le monde assurément redouté la rencontre des brigands, mais subissant ils des châtiments, chacun les plaint. C'est que ces peuples si fin, si moqueur, qui rit de tous les écrits publics sous la censure de ces maîtres, fait ce lecture habitué de petits poèmes qui raconte avec chaleur la vie des brigands les plus renommés. C'est qu'il trouve d'héroïque dans ces histoires revit la fibre artiste qui vit toujours dans les basses classes, et, d'ailleurs, il est tellement lost des louanges officiels de nez à certaines gens, que tout ce qui n'est pas officiel en ces genres va droit à son cœur. Il faut savoir que le bas peuple, en Italie souffre de certaines choses que le voyageur ne percevrait jamais, vec il d'exence dans le pays. Par exemple, il y a Kansans, avant que la sagesse des gouvernements n'eût supprimé les brigands, il n'était pas rare de voir certains de leurs exploits pour les iniquités des gouverneurs de petites villes. Ces gouverneurs, magistrats absolus dont la paix ne se livre pas plus de 20 écus par mois, sont naturellement au ordre de la famille la plus considérable du pays, qui, par ses moyens bien simples, opprime ses ennemis. Si les brigands n'y réussent ce sont pas toujours à punir ces petits gouverneurs despots, du moins ils se moquent d'eux et les brevaillent, c'est qui n'est pas peu de chose au lieu de ces peuples spirituels. Un sonnet satirique le console de tous ces mots, et jamais il n'oublie une offense. Voilà une autre des différences capitales entre l'italien et le français. Au XVIe siècle, le gouverneur d'Hambourg avait il condamné à mort un pauvre habitant en but à la haine de la famille preponderante, souvent envoyé les brigands attaquer la prison et essayer de délivrer la prime. De son côté, la famille puissante ni se fiant pas trop au oui tu dix soldats du gouvernement charges de garder la prison, l'avait à ses frais une troupe de soldats temporaires. Ceux-ci, qu'un appelait des bravi, bivouacaient dans les alentours de la prison, et se chargeaient d'escorter jusqu'au lieu du supplice le pauvre diable dont la mort avait été acte. Si cette famille puissante comptait un jeune homme dans son sein, il se mettait à la tête de ses soldats improvises. Cet état de la civilisation fait jamir la morale, j'en conviens, de nos jours on a la duel, la nuit, et les juges ni se vendent pas, mais ces usages du 16e siècle étaient merveilleusement propres à créer des hommes dignes de ces noms. Beaucoup d'historiens, les encore aujourd'hui par la littérature routinière des académies, ont cherché à dissimuler cet état de choses, qui, vers 1550, formait si grands caractères. De leur temps, leur prudence mensonge ferent récompenses par tous les honneurs dont pouvaient disposer les Medici de Florence, les d'Este de Ferrari, les Viceroy de Naples, etc. Un pauvre historien, nomme Giannoni, a voulu soulever un coin du voile, mais, comme il n'a osé dire qu'un très petit parti de la vérité, et encore un employant des formes dubitatives et obscures, il est stressé fort de nouveau, ce qui ne l'a pas empêché de mourir en prison à 82 ans, le 7 mars 1758. La première chose à faire, lorsqu'on invoque connaître l'histoire d'Italie, c'est donc de ne point lire les auteurs généralement approuves, nulle part, on n'a mieux connu le prix du mensonge, nulle part, il n'y fut mieux payé. La première histoire qu'on ait écrite en Italie, après la grande barbarie du 9e siècle, font déjà mention des brigands, et en parlant comme s'ils eussent existé de temps immémorial, voyez le recoin de meritori. Lorsque, par malheur pour la félicité publique, pour la justice, pour le bon gouvernement, mais par bonheur pour les arts, les républiques du Moyen-Âge furent apprimées, les républicains les plus énergiques, ceux qui aimaient la liberté plus que la majorité de leurs concitoyens, se réfugièrent dans les bois. Naturellement le peuple vexé par les Baglioni, par les Malatesti, par les Benevolio, par les Medici, etc., aimait et respectait leur ennemi. Les cruautés des petits tyrans qui succèdent aux premiers usurpateurs, par exemple, les cruautés de Combe, premier grand-duc de Florence, qui faisait assassiner les républicains réfugiés jusque dans Venise, jusque dans Paris, envoyèrent des recrues à ces brigands. Pour ne parler que des temps voisins de ceux où vécut notre héroïne, vers l'an 1550, Alphonse Piccolomini, duc de Monte Mariano, et Marco Sciarra dirigeant avec succès des bandes armées qui, dans les environs d'Albano, bravaient les soldats du pape à leur fort braves. La ligne d'opération de ces fameux chefs que le peuple admire encore s'étendait depuis le poète les marais de Riven jusqu'au bois qui à leur couvrait le Vésuve. La forêt de la Fagiola, si célèbre par leurs exploits, située à Saint-Cloud de Rome, sur la route de Naples, était le quartier général de Sciarra, qui, sous le pontificat de Grégoire XIII, réunit quelquefois plusieurs milliers de soldats. L'histoire détaillée de cet illustre brigand serait incroyable au lieu de la génération présente, en ce sens que jamais on n'y voudrait comprendre les motifs de ces actes. Il n'y fut vaincu qu'en 1592. Lorsqu'il vit ses affaires dans un état de désespoir, il traita avec la République de Venise et passa à son service avec ses soldats les plus devants ou les plus coupables, comme on voudra. Sur les réclamations du gouvernement roman, Venise, qui avait signé un traité avec Sciarra, le fit assassiner, et envoie ses braves soldats défendre l'île de Candie contre les Turcs. Mais la sagesse venitienne avait bien qu'un peste meurtrière régnait à Candie, et en quelques jours les 500 soldats que Sciarra avait mis au service de la République furent réduits à 60 septembre. Cette forêt de la Fagiola, dont les arbres gigantesques couvrent un ancien volcan, fut le dernier théâtre des exploits de Marco Sciarra. Tous les voyageurs voudront que c'est le site le plus magnifique de cette admirable campagne de Rome, dont l'aspect sombre semble fait pour la tragédie. El courant de ce noir verger les sommets du Mont Albano. C'est à une certaine éruption volcanique entre hier de bien des siècles à la fondation de Rome que nous devons cette magnifique montagne. À une époque qui a précédé toute l'histoire, El surgit au milieu de la vaste plaine qui s'étendait jet de centrale et appenins et la mer. Le monde cavi, qui se lève entre par les sombres embrages de la fagiola, en est la pointe culminante, en le persoit de partout, de terrassine et dusty comme de romette de Tivoli, et c'est la montagne d'Albano, mont non couvert de palais, qui, vers le midi, termina cet horizon à Rome si célèbre parmi les voyageurs. Un couvent de moine noir en place, au sommet du monte cavi, le temple de Jupiter Ferritrine, où les peuplatins venaient en sacrifier en commun et reser les lignes d'une sorte de fédération religieuse. Protégé par l'ombrage de Chantenier magnifique, le voyageur parvient, en quelques, aux blocs énormes qui présentent les ruines du temple de Jupiter, mais sous ces ombrages sombres, si délicieux dans ces climats, même aujourd'hui, le voyageur regarde avec inquiétude au fond de la forêt, il a peur des brigands. Arrivé au sommet du monte cavi, on allume du feu dans les ruines du temple pour préparer les aliments. De ce point, qui domine toute la campagne de Rome, on est persuadé, au couchant, la mer, qui semble à du pas, quoi qu'atois ou qu'étrolieu, on distingue les moindres bateaux, avec la plus faible lunette, on compte les qui passent en apple sur le bateau à vapeur. De tous les autres côtes, la vue s'étend sur une plaine magnifique qui se termine, au levant, par le pennon, au-dessus de Palestrine. Et, au nord, par Saint-Pierre et les autres grands édifices de Rome. Le monde cavi n'est pas trop élevé, l'œil distingue les moindres details de ces pays sublimes qui paraissent passer d'illustration historique, et cependant chaque bouquet de bois, chaque pan de mur en ruine, aperçu dans la plaine ou sur les pendis de la montagne, rappelle une de ces petits si admirables par le patriotisme et la bravoure que raconte-t-il. Encore de nos jours là on peut suivre. Pour arriver aux blocs énormes, restes du temple de Jupiter Ferritrine, et qui servent de mirage dans des moines noirs, la route triomphale parcourue jadis par les premiers rois de Rome. Elle est pavée de pierres talies fort régulièrement, et, au milieu de la forêt de la Fagiola, on en trouve de longs fragments. Au bord du crater Taint qui, remplit maintenant d'une eau limpide, est devenu le joli lac d'Albano de 5-6 miles de tour, si profondément en castans la rochée de lave, et situé albi, la mer de Rome, et que la politique romaine de Truisa de l'attempts des premiers rois. Toutefois ces ruines existent encore. Quelques siècles plus tard, à un court de la Dolby, sur la versant de la montagne qui regarde la mer, c'est élevé Albano, la ville moderne, mais elle est séparée du lac par un rideau de rochers qui cachent le lac à la ville et la ville au lac. Lorsqu'on le perçoit de la plaine, ces édifices blancs se détachent sur la verdure noire et profonde de la forêt si chère aux brigands et si souvent nommés, qui couronne de toutes parts la montagne volcanique. Albano, qui compte aujourd'hui 5 ou 6 000 habitants, n'en avait pas 3 000 en 1540, lorsque florissait, dans les premières rangs de la noblesse, la puissante famille Campirielli, dont nous l'ons raconte les malheurs. J'ai traduit cette histoire de du manuscrit volumineux, l'un roman. Et l'autre de Florence. A mon grand péril, j'ai osé reproduire leur style, qui est presque celui de nos vieilles légendes. Le style si fin et si mesuré de l'époque actuelle ou et des, semi symbole, trop peu de corps avec les actions racontées et surtout avec les réflexions des auteurs. Ils écrivaient vers l'an 1598. J'ai sollicite l'indulgence du lecteur et pour ou et pour moi, tout. Après avoir écrit tant d'histoires tragiques, dit l'auteur du manuscrit florentin, j'ai finirai par celle de tout qui me fait le plus de peine à raconter. J'ai weiss parler de cette fameuse abbesse du couvent de la Visitation à Castro, Ellen de Campirielli, dont le procès et la mort donnerent tant à parler à la haute société de Rome et de l'Italie. Déjà, vers 1555, les brigands régnaient dans les environs de Rome, les magistrats étaient vendus aux familles puissantes. En l'année 1572, qui fut celle du procès, Grégoire XIII, Boone Company, monté sur le trône de Saint-Pierre. C'est Saint-Pontifre unissait toutes les vertus apostoliques, mais on a pu reprocher quelques faiblesses à son gouvernement civil, il ni sut ni choisir des juges honnêtes, ni réprimer les brigands, il s'affligeait des crimes et ni savait pas les punir. Il lui semblait qu'un infligeant la peine de mortel prenait sur la vie une responsabilité terrible. Le résultat de cette manière de voir fut de pupiller dans nombre presque infini de brigands les routes qui conduisent à la ville éternelle. Pour voyager avec quelque sûreté, Il fallait être ami des brigands. La forêt de la Fagiola, à cheval sur la route de Naples par Albano, était depuis longtemps le quartier général d'un gouvernement ennemi de celui de sa sainteté, et plusieurs fois on fut obligé de trader, comme de puissance à puissance, avec Marco Chara, l'un des rois de la forêt. Ce qui faisait la force de ces brigands, c'est qu'il était aimé des paysans leurs voisins. Cette jolie ville d'Albano, si voisine du quartier général des brigands, vit naître, en 1542, Ellen de Campirielli. Son père passait pour le patrician le plus riche du pays, et, en cette qualité, il avait épousé Victoire Carafa, qui possédait de grandes terres dans le royaume de Naples. J'ai pu recider quelques vieillards qui vivent encore, et ont fort bien connu Victoire Carafa et sa fille. Victoire fut un modèle de prudence et d'esprit, mais, malgré tout son génie, elle n'y put prévenir la ruine de sa famille. Chose singulière. Les malheurs fruits qui vont former le triste sujet de mon récit n'y peuvent, semi semble, être attribués, en particulier, à aucun des acteurs que je vais présenter au lecteur, je vois des malheureux, mais, en vérité, je n'y puis trouver des coupables. L'extrême beauté et l'homme si tendre de la jeune Hélène étaient du grand perils pour elle, et font l'excuse de Jules Branceforte, son amant, tout comme le manque absolu d'esprit de Monsignor Cittadini, évêque de Castro. Putazi l'excuser jusqu'à un certain point. Il avait du son avancement rapide dans la carrière d'honneur ecclésiastique à l'honnêteté de sa conduite, et surtout à la mine la plus noble et à la figure la plus régulièrement belle que l'on put rencontrer. J'ai trouvé cri de la week-end n'y pouvait le voir sans le mais. Comme je n'y vu flatter personne, je n'y dissimulerai point qu'un saint moins du couvent de Monte Cavi, qui souvent avait été surprise, dans sa cellule. Elle avait à plusieurs pieds au-dessus du sol, comme Saint Paul, sans que rien autre que la grâce divine put le soutenir dans cette position extraordinaire, avait prêté au Seigneur de Campirielli que sa famille s'y tendrait avec lui, et qu'il n'aurait que du enfant, qui tout du parerait de mort violente. Ce fut à cause de cette prédiction qu'il n'y put trouver à se marier dans le pays et qu'il alla chercher fortune à Naples, où il eut le bonheur de trouver de grands biens et une femme capable, par son génie. De changer sa mauvaise destinée, si tout à fait une telle chose était possible. Ce seigneur de Campirielli passait pour fort honnête homme et faisait de grandes charities, mais il n'avait nul esprit, ce qui fit que peu à peu il se retire du séjour de Rome, et finit par passer presque toute l'année dans son palais d'Albano. Il se donnait à la culture de sa terre, situés dans cette plaine si riche qui s'étend entre la ville et la mer. Parlez conseil de sa femme. Il fit donner l'éducation la plus magnifique à son fils Fabio, jeune homme très fier de sa naissance, et à sa fille Hélène, qui fut un miracle de beauté, ainsi qu'on peut le voir encore par son portrait, qui existait dans la collection Farnese. Depuis que j'ai commencé à écrire son histoire, je suis allé au palais Farnese pour considérer l'enveloppe mortelle qu'elle a s'élevé donné à cette femme, dont la fatale destinée fit tant de brut de son temps, et occupe même encore la mémoire des hommes. La forme de la tête est une vallée long, la front est très grande, les cheveux sont d'un blanc fonce. L'air de sa physionomie est plutôt gai, élevé de grands yeux d'une expression profonde, et des sourcils chatons forment un arc parfait de dessin. Les lèvres sont fort minces, et l'on dirait que les contours de la bouche ont été dessinés par le fameux peintre Courrèges. Considérez au milieu des portraits qui l'entourent à la galerie Farnese, elle a l'air d'une reine. Il est bien rare que l'air guy soit joint à la majesté. Après avoir passé 8 années entières, comme pensionnaire au couvent de la visitation de la ville de Castro, Montnon de tried, où l'on envoyait, dans ses temps là, les filles de la plupart des princes romans, elle en revint dans sa patrie, mais n'y quitta point le couvent sans faire offrande dans calice magnifique au grand hôtel de l'église. A pen de retour dans Albano, son père fit venir de Rome, moyen et une pension considérable, le célèbre poète Sacchino, à leur fort age, il orne la mémoire de l'un des plus beaux vers du divin Virgile, de Petrarch, de l'Arius et du Dante, ses fameux élèves. Ici le traducteur est obligé de passer une longue dissertation sur les diverses parts de gloire que le 16e siècle faisait à ses grands poètes. Il paraitrait clean savait le latin. Les vers qu'on lui faisait apprendre parlant d'amour, et un amour qui nous semblerait bien ridicule. Si nous le rencontrions en 1839, J'ai vu dire la mer passionne qui se nourrit de grands sacrifices, ni put subsister qu'environ de mystère, et se trouve toujours voisin des plus affreux malheurs. Telle était l'amour que sud inspirera Hélène, à peine âgée de 17 ans, Jules Brancé forte. C'était un de ses voisins, fort pauvre, il habitait une chute de maison bâtie dans la montagne, à un court de l'eau de la ville, au milieu des ruines d'Albiette sur les bords du précipice de 150 pieds. Tapis de verdure, qui entourait le lac. Cette maison, qui touchait au sombre et magnifique ombrage de la forêt de la Fagiola, a depuis été démolie, lorsqu'on a bâti le couvent de Palazzuola. Ces pauvres gens n'avaient pour le week son air vif et lècheté, et l'insouciance non jouait avec laquelle il supportait sa mauvaise fortune. Tout ce que l'on pouvait dire de mieux en sa faveur, c'est que sa figure était expressive sans être belle. Mais il passait pour avoir bravement combattu sous les ordres du prince Cologne et parmi ses bravi, dans deux ou trois entreprises fort dangereuses. Malgré sa pauvreté, malgré l'absence de beauté, il n'en possédait pas moins, au lieu de toutes les jeunes filles d'Albano, le cœur qui lui était le plus flatteur de conquérir. Bien accueilli partout, Jules Brancé forte n'avait eu que des amours faciles, jusqu'au moment où Hélène revint du couvent de Castro. Lorsque, peu après, le grand poète Sechino s'est transporté à Rome au Palais Camporeale, pour en signer les belles lettres à cette jeune fille, Jules, qui la connaissait, lui adressa une pièce de vers latin sur le bonheur que va se vieille est de voir de si beau use à tâcher sur les siens, et un homme si pur être parfaite et heureuse qu'on il de ne approuver ses pensées. La jalousie et le dépit des jeunes filles aux quels Jules faisait attention avant le retour de l'en rendirent bien en utiles toutes les précautions qu'il employait pour cacher une passion naissante, et avouer I case de mort entre un jeune homme de 22 ans et une fille de 17 foot conduite à bord d'une façon que la prudence ne saurait approuver. Toi mois ni si tient pas cools lorsque le seigneur de Camporeale s'aperçut que Jules Brancé forte passait trop souvent sous les fenêtres de son palais. Que l'on voit encore vers le milieu de la grande rue qui monte vers le lac. La franchise et la rudesse, suites naturelles de la liberté que souffrent les républiques, et l'habitude des passions franches, non encore reprimées par les mœurs de la monarchie, se montrent à découvert dans la première démarche du seigneur de Camporeale. Le jour même où il fut choqué des fréquentes apparitions du jeune Brancé forte, il apostropha en ces termes. Comment oses tu bien passer ainsi sans cesse devant ma maison, et lancer des regards impertinents sur les fenêtres de ma fille, toi qui n'as pas même t'habits pour te couvrir? Si je ne crains que ma démarche ne fût mal interprétée des voisins, je te donnerai toi sequins d'or, et tu auras à m'acheter une tunique plus convenable. Au moins ma vue et celle de ma fille ne serait en plus si souvent offensive par l'aspect de tes hélens. Le père de l'exerite sans doute. Les habits du jeune Brancé forte n'étaient point des hélens, ils étaient faits avec des matériaux fort simples, mais, quoique fort propres et souvent brosses, il faut avouer que leur aspect annonçait un long usage. Jules eut l'homme si profondément navré par les reproches du seigneur de Camporeale, qu'il n'y parut plus de jour devant sa maison. Comme nous l'avons dit, les deux arcades, débris d'un aqueduc antique, qui servient de mers principaux à la maison bâtie par le père de Brancé forte, et par le wheel aussi à son fils, n'étant qu'à 5 ou 6 cents pas d'Albano. Pour descendre de ses lieux élevés à la ville moderne, Jules était obligé de passer devant le palais Camporeale. Hélène remarqua bientôt l'absence de ses jeunes hommes singuliers, qui, au dire de ses amis, avait abandonné toute autre relation pour se consacrer en entier au bonheur qu'il semblait trouver à la regarder. Un soir de day, vers minuit, la fenêtre de l'en était ouverte, la jeune fille respirait la brise de mer qui se fait fort bien sentir sur la colline d'Albano, quoique cette ville soit séparée de la mer par une plaine de toile. La nuit était sombre, le silence profond, on eût entendu tomber une feuille. Hélène, appuyée sur sa fenêtre, pensait peut-être à Jules, lorsqu'elle entrevit quelque chose comme le silence used en oiseau de nuit qui passait doucement out contre sa fenêtre. Elle se retire effrayée. L'idée ne lui vint point que cet objet put être présenté par quelque passant, le second étage du palais où se trouvait sa fenêtre était à plus de 50 pieds de terre. Tout à coup, elle crut reconnaître un bouquet dans cette chose singulière qui, au milieu d'un profond silence, passait et repassait devant la fenêtre sur laquelle elle était appuyée. Son cœur battait avec violence. Ses bouquets lui semblaient fixés à l'extrémité de deux ou trois de ses cannes, espèce de grands jonques, assez semblables au bambou, qui croissent dans la campagne de Rome, et dont des tiges de vin à trente pieds. La faiblesse des canettes la brise assez forte fissient que Jules avait quelque difficulté à maintenir son bouquet exactement vis-à-vis la fenêtre où il supposait que l'on pouvait se trouver, et d'ailleurs, la nuit était tellement sombre, que de la l'on n'y pouvait rien apercevoir à une telle hauteur. Immobile devant sa fenêtre, elle était profondément agitée. Prendre ses bouquets, n'était-ce pas en avoue? Elle n'éprouvait d'ailleurs aucun des sentiments qu'une aventure de ce genre ferait naître. De nos jours, chez une jeune fille de la haute société, préparé à la vie par une belle éducation. Comme son père et son frère Fabio étaient dans la maison, sa première pensée fut que la moindre brute serait suivie d'un coup d'arquebus dirigé sur Jules, elle eut pitié du danger que courait ce pauvre jeune homme. Sa seconde pensée fut que, quoique la connût encore bien peu, il était pourtant leader au monde qu'elle aimait le mieux après sa famille. Enfin. Après quelques minutes d'hésitation, elle prit le bouquet, et, en touchant les fleurs dans l'obscurité profonde, elle sentit qu'une belle était attachée à la tige d'une fleur, elle courut sur le grand escalier pour lire sa belle à la lueur de la lampe qui veillait devant l'image de la Madone. Imprudent. C'est dit-elle lorsque les premières lignes l'auront fait rougir de bonheur, si l'on m'y voit, je suis perdu, et ma famille persécutera à jamais ce pauvre jeune homme. Elle revint dans sa chambre et alluma sa lampe. Ce moment fut délicieux pour Jules, qui, honteux de s'aider marchait comme pour se cacher même dans la profonde nuit, cet icolo tronc énorme dans de ses chenvero formes bizarres qui existent encore aujourd'hui vis-à-vis la plaie capirelli. Dans sa lettre, Jules racontait avec la plus parfaite simplicité la réprimande hurlante qui lui avait été adressée par le père de Laine. Je suis pauvre, il est vrai, continued il. Et vous figurerez difficilement tout l'excès de ma pauvreté. Je n'ai que ma maison que vous avez peut-être remarqué sous les ruines de l'aqueduc d'Albi, autour de la maison se trouve un jardin que j'ai cultivé moi-même, et dont les herbes me nourrissent. Je possède encore une vigne qui est fermée 30 coups par an. Je n'y sais, en vérité, pourquoi je vous aime, certainement je n'y puis pas vous proposer de venir partager ma misère. Et cependant, si vous n'y m'aimez point, la vie n'a plus aucun prix pour moi, il est inutile de vous dire que je la donnerai mille fois pour vous. Et cependant, avant votre retour du couvent, cette vie n'était point infortunée, au contraire, elle était remplie de rêveries les plus brillantes. Ainsi je puis dire que la vue du bonheur m'a rendu malheureux. Certes, alors personne au monde n'eût osé m'adresser les propos dont votre père m'a flatté, mon poignard m'eût fait prompt justice. Alors, avec mon courage et mes armes, je m'estimais légal de tout le monde, rien ne me manquait. Maintenant tout est bien changé, je connais la crainte. C'est trop écrire, peut-être m'imprise-vous. Si, au contraire, vous avez quelque pitié de moi, malgré les pauvres habits qui me couvrent, vous remarquerez que tous les soirs, lorsque mon huitaine au couvent des Capuchins au sommet de la colline, je suis caché sous le grand chêne. Vis-à-vis la fenêtre que je regarde sans cesse, parce que je suppose qu'elle est celle de votre chambre. Si vous n'y m'imprisez pas comme le fait votre père, jette-moi une des fleurs du bouquet, mais prenez garde qu'elle n'y soit entrée ni sur une des corniches ou sur un des balcons de votre palais. Cette lettre fut le plusieurs fois, peu à peu les yeux de Laine se remplirent de larmes, elle considérait avec attendrissement ce magnifique bouquet dont les fleurs étaient lisses avec un fil de soie très fort. Elle essaya d'arracher une fleur mais n'y put en venir à bout, puis elle fut saisie d'un remords. Parmi les jeunes filles de Rome, arracher une fleur, mutiler d'une façon quelconque un bouquet donné par l'amour, c'est s'exposer à faire mourir cet amour. Elle craignait que Jules n'y s'impatientât, elle courut à sa fenêtre, mais, en y arrivant, elle songea tout à coup qu'elle était trop bien vue, la lampe remplissait la chambre de lumière. Elle n'y savait plus quel signe elle pouvait se permettre. Il lui semblait qu'il n'en était aucun qui n'y dit beaucoup trop. Antilleuse, elle rentre dans sa chambre en courant. Mais le temps s'est passé, tout à coup, il lui vint une idée qu'il a jeté dans un trouble inexprimable. Jules le quoique, comme son père, elle prise sa pauvreté. Elle vit un petit échantillon de marbre précieuse depose sur la table, elle le noie dans son mouchoir, et jette ses mouchoirs au pied du chêne vis-à-vis sa fenêtre. Ensuite, elle fit signe consoloinat, elle intended Jules Louis Aubert, car, en son allant, il ne cherchait plus à dérober le brut de ses pas. Quand il eut atteint le sommet de la cancer de rocher qui se parle lac des dernières maisons d'Albano, elle l'entendait chanter des paroles d'amour, elle oui fit des signes d'adieu, cette fois moi timides, puis se mit à relire sa lettre. Le lendemain et les jours suivants, il y eut des lettres et des interviews semblables, mais, comme tout se remarque dans un village italien, et Colline était de bien loin le parti le plus riche du pays, le seigneur de Campirelli fut averti que tous les soirs, après minuit, on apercevait de la lumière dans la chambre de Sophie, et, chose bien autrement extraordinaire, la fenêtre était verte, et même elle incitait comme si elle n'eût approuvé aucune crainte des insera, sorte de cousins, extrêmement incommodes et qui gâtent fort les belles soirées de la campagne de Rome. Ici je dois de nouveau solliciter l'indulgence du lecteur. Lorsqu'on est tenté de connaître les usages des pays étrangers, il faut s'attendre à des bien sagrenues, bien différentes des notes. Le seigneur de Campirelli prepare son arquebus et celle de son fils. Le soir, comme on zert trois quarts sonnant, il avertit Fabio, et tous les deux s'égliceront, en faisant le moins de bruit possible, sur un grand balcon de pierre qui se trouvait au premier étage du palais, précisément sous la fenêtre de l'Anne. Les pieux